Alors aujourd'hui, entendons cette voix qui nous dit « Confiance, lève-toi, Jésus t'appelle. » Confiance, lève-toi, il t'appelle. C'est l'histoire de Bartimée. En Marc 10, je lirai du verset 46 au verset 52 de l'Évangile selon Marc, au chapitre 10. Mais peut-être lisons premièrement le verset 45 quand même, parce que c'est un verset qui est un résumé de l'Évangile. Alors, verset 45. « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais, premièrement, pour servir. Deuxièmement, pour donner sa vie comme rançon. Troisièmement, pour libérer une multitude de personnes. C'est extraordinaire, on peut dire que c'est un résumé de l'Évangile. Qu'il est venu pour servir, il a donné sa vie pour nous libérer. Alors voici mon propos à partir du verset 46. En ce temps-là, c'était juste avant la Pâque, juste avant la croix. Alors on se souvient du week-end de Pâques qui est encore dans notre mémoire. Et c'est juste avant, en ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, donc dans la vallée du Jourdain, et puis il fallait qu'il monte à Jérusalem. Il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse. Le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier et à dire « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais j'ai crié le plus bel « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance » ou d'autres traductions « Et bon courage !»« Lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta loin son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabboni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ou guéri. Hein? » Sauvé ou guéri, ça peut être traduit. Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. On a chanté dans Mon encre et ma voile cette expression « Ta grâce m'appelle à lever les yeux et à suivre ton chemin. » Alors c'est un peu aussi le cas de ce mendiant. Ce chapitre 10 de l'Évangile selon Marc nous montre trois comportements bien différents par rapport à l'attitude de suivre Jésus ou par rapport à l'attitude de ne pas suivre Jésus. On peut regarder au verset 21-22 de ce chapitre. On voit un homme riche invité par le Seigneur à le suivre. Mais d'une façon particulière parce que c'est en ayant chargé la croix. Cet homme, visiblement, refuse de suivre Jésus. Et il s'en va ailleurs. Il est tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Au verset 32, un autre comportement. Donc lui, l'homme riche n'a pas suivi Jésus. Au verset 32, c'est les disciples qui sont aussi appelés, et eux, ils suivent Jésus. Et d'ailleurs, ils font valoir leur renoncement. Lisons, voyez, 4 versets plus haut, verset 28, je lis, Pierre se met à dire à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Alors les disciples suivent Jésus qui monte à Jérusalem et Jésus leur rappelle une dernière fois qu'il va être condamné à mort. Alors on peut comprendre que les disciples sont effrayés. Lisons d'ailleurs ces versets 32 à 34, je lirai dans la version Semeur. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples. Et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part et se mit à leur dire ce qui allait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort, le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet, le mettront à mort. C'est horrible tous ces mots. Puis au bout de 3 jours, il ressuscitera. Un troisième comportement dans ce chapitre, c'est l'épisode que nous avons lu. Ce mendiant, qui est aveugle, auquel Jésus n'a rien demandé en le guérissant, mais qui, sans un mot, ce mendiant, jette le vêtement qui pouvait entraver sa marche et se met à suivre Jésus dans le chemin. Donc Jésus appelle l'homme riche à le suivre et qui va ailleurs. Les disciples suivent Jésus parce qu'ils ont été appelés aussi. Et puis ce mendiant a été appelé et il suit Jésus. Alors l'homme riche ne le suit pas, mais quelle tristesse a-t-il dans son cœur. Les disciples, eux, suivent, mais quand même ils soulignent leur renoncement. Ce n'est pas si simple que ça. Ils sont même effrayés de l'aboutissement annoncé d'un tel chemin. Dans la troisième situation, il n'est pas dit que Jésus invite Bartimée à le suivre, mais spontanément, il va suivre Jésus dans son chemin. Alors je vous propose quelques réflexions sur cet épisode de Jésus et de l'aveugle Bartimée. Verset 46. Jésus, avant d'aborder la longue montée vers Jérusalem, à pied, dans une vallée très étroite, un peu comme un canyon, et donc il y a très peu de soleil. Des voleurs peuvent se cacher d'ailleurs. Et dans la parabole du bon samaritain, il y en a un qui allait descendre de Jérusalem à Jéricho et les voleurs l'ont attrapé. Et puis, ça évoque aussi ces versets du psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort. Jésus a marché de Jéricho à Jérusalem dans une vallée étroite, profonde, très peu de soleil pour aller à la mort. Et avant d'aborder ce chemin, il sort de la ville de Jéricho, accompagné d'une foule assez nombreuse. Ce sont tous les pèlerins qui montent aussi, sans doute à la Pâque, à la ville sainte. Et c'est à ce moment précis que Marc situe l'épisode de l'aveugle Bartimée. Alors pour mieux saisir quelques aspects de ce qui s'est passé, on va examiner les faits suivant 4 points de vue. Celui de la foule, celui de Jésus, celui de Bartimée, et puis pour nous, dans notre vie de chrétien, quel enseignement pouvons-nous en retirer ? Premièrement, donc le premier point de mon propos, Examinons les faits depuis le point de vue de la foule. La foule qui entoure Jésus demande violemment à cet aveugle de se taire. Pourquoi? Peut-être qu'ils attendaient un Messie qui ne devait ne s'occuper que des hommes de valeur, mais surtout pas de pauvres types comme ce mendiant. Mais le monde n'a pas changé. Notre société d'aujourd'hui ne veut pas voir les pauvres. Notre société d'aujourd'hui est peut-être aveugle sur beaucoup de points. Et notre société les écarte du chemin quand ils deviennent un peu gênants. Hein, vous savez que la ville de Paris, depuis des mois, essaie de transporter les sans-abri en province et les renvoie par car pour les loger. Les services sociaux de la province sont débordés de demandes. Parce que pour les Jeux Olympiques, on ne veut pas voir ces mendiants et ces sans-abri. Mais quelle honte! Mais toute sa vie, Jésus est allé vers les pauvres. Toute sa vie. Et vers ceux qui sont considérés comme des parias de la société. Alors plusieurs demandent à Bartimée de se taire. Mais Bartimée crie de plus en plus fort. Et il a raison. Fille de David, aie pitié de moi. Alors Bartimée est un exemple pour moi, pour nous. Ne laissons pas l'appel de Dieu se perdre dans le brouhaha de la foule. Alors pour la foule, en résumé, c'est simple. Bartimée est un gêneur. Non seulement il dépend des autres pour ses déplacements, non seulement il mendie, mais en plus il crie. Alors cette foule, comme toujours, est assez inconstante parce que, avec violence, il demande à cette mendiante de se taire. Et puis, quelques instants plus tard, grâce à la générosité de Jésus, ils lui diront, ils diront à la mendiante, « Bon courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors, peut-être que les handicapés sont parfois ressentis comme gênants dans notre société de confort, même lorsqu'ils ne crient pas, même s'ils n'ont pas de voix pour faire entendre, pour se faire entendre. Mais en réalité, le plus grand des handicaps, c'est quoi? C'est de ne pas pouvoir accéder à la foi. Alors, ne pas accéder à la foi à cause de barrières culturelles, à cause de séquelles d'une éducation, à cause du contre-témoignage des croyants, peut-être à cause du poids d'une vie de péché. Alors, autour de nous, dans notre grand Paris, ou en Suisse, ou là où vous habitez, nos visiteurs, il y a beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes qui sont au bord de notre route sans pouvoir faire autre chose que de tendre la main. Vers un peu d'amitié, un peu de regard, peut-être un moment de dialogue, peut-être un sourire. En entendant passer ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui invoquent Jésus, mais partout où nous allons, Jésus est en nous. Donc, il passe partout. Quand nous passons quelque part. Alors soyons à l'écoute d'une voix qui pourrait nous interpeller, nous qui sommes habités par Jésus. Certains vont reprendre peut-être le train ou la voiture ou rentrer chez eux, aller travailler peut-être demain. Et partout où nous irons, Jésus est là avec nous et il passe dans la foule. Avec nous. Un deuxième point de mon propos, c'est examinons les faits du point de vue de Jésus. Pour Jésus, la présence de ce mendiant va être une fois de plus l'occasion de contester l'égoïsme, notre égoïsme, l'égoïsme de la foule, de chacun de nous. Quand nous sommes dans une foule, peut-être l'égoïsme est très fort. Alors Jésus, ce jour-là, c'est pourtant le héros de la foule. Et ces gens qui l'accompagnent, qui l'entourent, qui l'accaparent, ils vont sans doute arriver à Jérusalem, l'acclamer et l'applaudir. Et donc, il y a beaucoup de bruit. Mais dans ce brouhaha qui provient de la foule, il y en a un qui crie et un autre qui entend, c'est Jésus. Jésus entend le cri isolé de l'aveugle, comme s'il était tout seul. Alors, encourageons-nous en nous rappelant que le cri de la foi parvient toujours à Jésus. Crions à Jésus, il entend. Et Jésus s'arrête. Et en s'arrêtant, Jésus fait que la foule s'arrête. Aussi. Alors même si Jésus monte à Jérusalem pour un rendez-vous, mais incroyable, qui a même plonge dans l'angoisse les disciples, et pour lui, c'était pas un doute pas simple. Jésus monte à un rendez-vous qui va basculer, on va dire, l'univers entier dans ses conséquences. Un rendez-vous si important. L'œuvre de la croix. C'est trop important qu'il y aille. Mais Jésus s'arrête quand même. Il a un rendez-vous très important qu'il ne peut pas décaler. Mais il s'arrête pour ce mendiant. Pour ce démuni. Qui appelle à l'aide. Car cet homme que la foule néglige, que la foule veut faire taire, est aux yeux de Jésus unique, irremplaçable. Et Bartimée, ce jour-là, ça va être le privilégié de l'amour de Jésus. Il a crié, mais heureusement. Et cet homme est identifiable, il est connu. Il s'appelle Bartimée. Mais d'ailleurs, vous le savez, c'est le fils de Timée. C'est assez rare que les noms des personnes guéries par Jésus soient nommés. Donc on peut le noter. Et Jésus connaît notre nom. Et quand on crie à lui, il s'arrête, il écoute et il nous parle. Jésus, comme à son habitude, va se comporter en éducateur, on va dire. Il éduque la foule à la charité. Parce que il fait aucun reproche à la foule, en fait. Et tous ces gens qui passent sans voir l'aveugle, sans le remarquer, Jésus leur dit quoi? Pas de reproche. Il leur dit, mais appelez-le. Donc lui, il aurait pu appeler ses Bartimée ou s'approcher de lui, mais non, il utilise cette foule bruyante et qui a des comportements répréhensibles par rapport à ce mendiant. Et Jésus dit à cette foule, mais appelez-le. Il utilise cette foule comme un relais de sa grâce. C'est sans doute assez pédagogique. Il éduque cette foule. Alors à notre tour, on peut être le bras de Jésus. À notre tour, on peut être la voix de Jésus pour quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui appelle. Alors peut-être, on va croiser quelqu'un qui va appeler peut-être à l'aide. Et Jésus va nous utiliser et va nous dire, mais Pierre-Yves, vas-y, appelle-le. Un troisième point de mon propos, examinons les faits du point de vue de Bartimée, qui est aveugle. Alors Jésus va aussi l'éduquer, il va éduquer sa foi, on va dire. Jésus attend qu'il arrive devant lui, puis il lui demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» On serait tenté de dire que c'est une question idiote. Un mendiant, il demande quoi? De l'argent? Alors il demande peut-être de récupérer la vue, c'est vrai. Mais Jésus sait l'importance de la parole pour cet aveugle. Ce Bartimée ne voit pas Jésus. Il ne voit pas son regard de grâce. Il ne voit pas son visage, il ne voit pas son attitude. Comment Jésus, fils de Dieu, peut transmettre quelque chose de l'humain, de son humanité à cet homme s'il ne parle pas? Bartimée ne peut pas deviner. Donc Jésus lui parle. Pour qu'il y ait, il entame une communication avec lui. La foule voulait fermer la bouche de cet homme et Jésus lui rend la parole. Et en faisant cela, Jésus lui rend toute sa dignité. Jésus, en posant cette question, lui permet aussi, un autre point de, sans doute c'est la pédagogie de Jésus, permet à cet homme de formaliser sa demande. Et il demande que je retrouve la vue. Et en formalisant cette demande, Bartimée n'est pas passif, mais il devient acteur de sa guérison. D'ailleurs, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé !» Il ne dit pas à Jésus, « Va, parce que je te sauve !» Il dit à Bartimée, « Ta foi t'a sauvé !» On sent bien que c'est Jésus qui sauve et qui guérit. Mais, en tout cas, dans les paroles, Jésus implique cet homme dans sa propre guérison. « Ta foi t'a sauvé !» Il n'est pas passif, mais acteur de sa guérison. Jésus lui rend sa liberté. Va. Jésus l'envoie en renonçant toute une emprise, tout pouvoir sur lui, tout lien de dépendance. Il le rend libre. Et puis c'est comme s'il lui disait, vois-tu, ce n'est pas moi qui te sauve, c'est ton élan vers moi, c'est ton mouvement et c'est ta foi. Heureusement que Bartimée sait exactement ce qu'il veut, car il peut répondre à la question de Jésus. Si Jésus nous pose une question une fois, est-ce qu'on saura répondre? Si Jésus me demandait aujourd'hui, à moi et à vous, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle serait ma réponse? Serions-nous capables d'exprimer ce que nous attendons de Jésus? C'est pas si évident. Je propose de prendre un instant pour réfléchir chacun. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus ne guérit pas l'aveugle sans que celui-ci dise « Je souhaite voir ». Pour être guéri, il a fallu que Bartimée affirme sa volonté de sortir de son handicap. Et pourtant, son handicap, c'était son gagne-pain. C'est grâce à ça qu'il pouvait mendier avoir de l'argent. Peut-être que Bartimée a aussi compris une autre leçon, que Jésus ne résout pas nos problèmes contre notre propre volonté. C'est une leçon à retenir pour chacun de nous. Ne pas vouloir résoudre les problèmes des gens contre leur propre volonté. Parfois, on peut avoir une idée précise des besoins d'une personne. Demandons-lui d'exprimer d'abord ses propres besoins avant de vouloir l'aider. À quelqu'un qui est dans la rue, on était à la mission des sans-logis avec Elisabeth il n'y a pas longtemps, à Paris, le jour où la Bible pour les sans-logis a été distribuée. Et il avait été dit que peut-être 80 à 95% des personnes à qui on demande dans la rue, veux-tu qu'on prie ensemble, La 95%, on va dire, des réponses, c'est oui. En tout cas, l'exhortation, c'est ne pas se mettre à prier comme un évangélique en fermant les yeux et que je, voilà, je te prie pour que cette personne ait un logement, de la nourriture, des vêtements et ceci, cela. Non. Demandons à la personne, que voudrais-tu qu'on demande à prier à Dieu pour toi? Peut-être ce qu'il a besoin, c'est peut-être quelque chose qu'il a besoin d'exprimer d'abord. C'est peut-être pas ce que nous, on peut penser. Jésus nous donne ici un modèle d'œuvre sociale. Et en plus, Jésus, en faisant parler cet homme, lui donne la joie d'exprimer sa confiance. Il dit, Rabboni, que je retrouve la vue. Rabbi veut dire maître, paraît-il. Mais dans ce texte, ce n'est pas Rabbi, ce n'est pas que maître, c'est Rabboni. C'est mieux que Rabbi. C'est non seulement maître, mais mon maître. Mon maître. Mon Seigneur. Avec une notion de, une nuance de respect, d'attachement. Rabboni. Que je retrouve la vue. Alors la foi fait sortir de l'anonymat de la foule. La foi permet une rencontre personnelle avec Jésus. Jésus qui perçoit chacun de nos besoins, mais qui nous demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Jésus peut répondre au-delà de nos attentes. Alors peut-être qu'il me demande aujourd'hui. Bon, je répète cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il ne me suffit pas de demander une fois, mais il me faut aussi peut-être parfois crier comme Bartimée. Il me faut aussi persévérer dans la supplication. Alors l'aveugle a un désir évident, voir la vue. Et on a tous besoin de voir. On a besoin de mieux voir. On a besoin de discerner plus la volonté de Dieu dans notre propre vie. On a besoin de mieux voir, d'avoir un meilleur regard à porter sur ce monde, sur les événements du monde, sur ces guerres, sur la bande de Gaza, Israël. Il y a des chrétiens qui se chamaillent sur ce qu'il faudrait faire ou pas faire, dire ou pas dire. Nous sommes aveugles parfois, sans doute, sur beaucoup de points. Porter sur ce monde le même regard que Dieu. Quatrième et dernier point, essayons d'actualiser brièvement, bien sûr, cet épisode pour nous, comme chrétiens. Nous pouvons peut-être vivre cette guérison comme Bartimée l'a vécu en nous disant finalement dans cette histoire l'aveugle c'est moi. C'est peut-être moi. Nous pouvons peut-être vivre cette guérison comme Bartimée l'a vécu. Alors, dans cette histoire, il y a une grande foule. Et parfois, pour un mendiant, une grande foule, ce n'est pas forcément une aubaine. Une grande foule n'est pas toujours une aubaine pour un mendiant. Par exemple, à Bourg-la-Reine, là où nous habitons, il y a la gare du RER B. Et quand on sort de la gare, il y a les rues piétonnes, où il y a des mendiants dans cette rue toujours. Et quand le RER B arrive, il y a une foule. Voilà, qui sort du RER, qui sort de la gare et qui marche dans cette rue pour aller à l'arrêt de bus qui est de l'autre côté. Mais je n'ai pas l'impression que cette foule est généreuse chaque fois qu'un RER arrive. On peut se cacher facilement dans la foule. Vous êtes des fois sorti justement d'un RER ou d'un métro ou d'un bus et puis qu'il y a quelqu'un qui est un mendiant et puis que bon, vous êtes pressé. Dans une foule, on peut se cacher plus facilement pour ne pas voir le mendiant. Pour ne pas voir la personne qui est dans le besoin. Donc une foule, ce n'est pas forcément généreux. Mais le mendiant est quand même là. Il ne se décourage pas. Il aurait pu se dire, bah, Bartimée, je ne vais pas me... Il aurait pu se résigner à ne pas mendier ce jour-là, vu la foule. Et une foule qu'en plus qui est très occupée à autre chose, qui monte à Jérusalem, qui fait du bruit. Mais entendant dans la foule parler de Jésus, il se met à crier pour se faire remarquer. Parce qu'il est peut-être noyé dans tous les gens qui marchent. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors vous savez, le passage de Jésus à Jéricho, mais c'est la chance de sa vie. Il ne faut pas la laisser passer, cette chance. Il a peut-être 2 minutes pour crier. 2 minutes pour attendrir Jésus. Et saisit l'occasion. Et pour nous, les instants que nous passons ensemble dans cette église, réunis autour de Jésus, comme aujourd'hui, peut-être ça pourrait être les minutes d'une rencontre intense avec Jésus. Jésus s'arrête pour nous. Le tout est d'oser crier à lui, d'oser lui faire confiance et lui dire « Jésus, aie pitié de moi, je suis ton aveugle. » Bartimée, sans qu'on s'approche de lui, perçoit sans doute tout à coup quelques paroles et des paroles extraordinaires que l'on puisse entendre de la part de personnes dans la foule et qui lui disent « Mais confiance, bon courage !» et qui lui disent « Mais lève-toi, il t'appelle !» Jésus t'appelle. Alors cet homme, il avait un manteau. Parfois, quand on ne bouge pas, il fait froid. Il rejette son manteau. Il se lève d'un bond. Il court vers Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un l'aide. S'il a entendu la voix de Jésus et donc s'il a, il peut supposer où est-ce qu'il se trouve, il court en tout cas, dans la nuit. Et il répond à la question de Jésus. Rabboni, que je retrouve la vue. Alors le vêtement est souvent un symbole d'identité. Un pâtissier, un mécanicien, un chirurgien n'ont pas les mêmes habits, on va dire. Et là, il jette son vêtement. C'est comme il changeait d'identité. Un autre enseignement possible de ce vêtement qui est jeté, c'est que parfois, on peut se revêtir d'un vêtement, d'un manteau, pour cacher, comme cache-misère, quoi. Pour cacher nos misères. Et ce cache-misère peut nous encombrer pour aller vers Jésus. Pour accéder à la présence de Dieu. Alors, répondons à l'appel divin, levons-nous, allons à la rencontre de Jésus. Et puis, oui, jeter un manteau, c'est peut-être aussi un fort renoncement. Pour aller à Jésus, il y a parfois du renoncement. Et le renoncement, ça fait partie de la vie du chrétien. D'ailleurs, les disciples avaient renoncé sans doute à beaucoup de choses. Pierre a dit juste en verset de ce chapitre, « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Oui, il y a du renoncement. Alors, levons-nous pour aller à la rencontre de Jésus et puis arriver à ses pieds. Ah oui, on est encore aveugle à ses pieds. On s'est levé. Donc on a la foi qui est en action. On a même sans doute renoncé à des choses. On arrive aux pieds de Jésus, mais on est encore aveugle. Et donc on ne le voit peut-être pas vraiment, même si on sent peut-être sa présence. Si on entend sa voix, mais on ne le voit pas. Ça nous arrive souvent. de ne pas vraiment sentir la présence de Jésus. Mais oui, bien sûr, ça arrive à tous. On est encore aveugle devant lui. On a aussi souvent une cécité spirituelle. On devine un peu sa présence. On sait qu'il est là, on sait qu'il nous entend, mais on ne le sent pas vraiment. Et on se pose des questions. Et on se dit, mais qu'est-ce que je suis comme chrétien alors? Je ne jouais pas à la présence de Jésus. Mais soyons confiants. Et soyons certains que Jésus va se rendre maître de notre aveuglement. Disons simplement, Seigneur, que je puisse te voir. Va, dit Jésus. Et aussi l'homme qui était assis. Il était assis, en plus au bord du chemin. Il marche, il suit Jésus sur ce chemin, le chemin de Jésus. À la fin du verset 52. Et une conclusion, que nous sachions reconnaître le passage de Jésus dans nos vies. Parce que Jésus nous visite régulièrement. Là, il passait à Jéricho, mais il passe sans doute à Bollaren où nous habitons. Il passe ici à Antony, il passe dans votre habitation. Ah, il passe près de votre cœur. Il nous visite. Mais quelle grâce de sa part! Que nous sachions discerner, oui, voir, parce que je suis peut-être aveugle, que nous sachions discerner les traces de son amour, que nous sachions voir sa main qui m'invite. Et dans ce monde très complexe, que nous puissions voir comment nous situer en tant que chrétiens. Un monde difficile. Que nous puissions voir aussi la fidélité de Dieu, sa grâce, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église, dans notre vie personnelle. Et puis dans ce monde complexe où il y a beaucoup d'idéologies qui sont peut-être très très loin, voire opposées de l'enseignement divin, on est perplexe. Alors que nous puissions apercevoir, toujours voir, comment rester constructif là où certaines idéologies faussent la vision. Et puis, quand nous souffrons, dans la souffrance, que nous puissions voir le projet d'amour de Dieu pour moi. Je termine par une prière. Rabboni, mon maître, que je vois dans quel chemin je pourrais m'engager, que je puisse témoigner de toi dans ma vie, que je t'entende me dire, va, ta foi t'a sauvé. Seigneur, que je m'attache à tes pas pour te suivre sur la route et que je puisse te glorifier en te suivant. Amen.